Moi, j'ai une double casquette et une double vie. Du côté sérieux, je m'appelle Sylvie Lenné-Cruzel, je suis professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 3. On n'a pas vraiment commencé. On commence très longtemps. Et donc, moi, je suis plus précisément du côté des sciences de l'information. Ça veut dire que je travaille sur des choses dont j'aurai l'occasion de vous parler parce qu'elles sont assez proches de l'informatique, que moi, personnellement, je viens de l'informatique comme formation initiale et que certains des travaux que je mène peuvent être étiquetés intelligence artificielle. Encore faut-il qu'on se mette d'accord sur ce que le concept englobe et ça va être une des choses dont on parlera. Je suis aussi auteur de science-fiction, de nouvelles précisément, dans laquelle il m'arrive de mettre en scène des univers virtuels, des créatures hybrides, mais je n'ai pas écrit beaucoup de nouvelles en rapport avec l'intelligence artificielle, peut-être justement parce que quand on est un peu dedans, l'imaginaire est un peu bridé par la connaissance que l'on peut avoir de certains domaines. Donc moi personnellement, je suis plus à l'aide pour échafauder des grandes théories sur des bases scientifiques que je maîtrise moins bien. Donc, ce dont je voulais vous proposer de vous parler, c'est d'abord, et je m'en excuse d'avance si ce sont des choses qui vous sont familières, essayer de reclarifier un peu ce qu'est le concept. Quand est-ce qu'on a employé ce terme d'intelligence artificielle? On considère en général qu'il a vraiment démarré lorsque Alan Turing, en 1950, a inventé le célèbre test de Turing. Donc je vous rappelle, il s'agissait de mettre un être humain devant un écran avec un clavier, et le principe étant que lorsqu'il dialoguerait avec un interlocuteur invisible, et qu'a priori il penserait qu'il dialoguait avec un être humain et que rien ne le ferait douter du fait qu'il avait affaire à un être humain, lorsqu'on serait capable de lui faire mener un dialogue comme celui-là avec un programme, un logiciel, on considérerait à ce moment-là qu'on aurait inventé la première intelligence artificielle, indifférenciable de l'homme de par ses capacités à converser et à dialoguer. Donc 1950, c'est pas très récent. À partir des années 60, il y a eu plein de gens qui ont commencé à travailler sur avec ce grand projet de bâtir une intelligence qui soit comparable à celle de l'homme. Ça a commencé dans les années 60 aux États-Unis. En France, ça a vraiment commencé, je dirais, dans les années 70. Et moi qui suis extrêmement âgée, j'ai soutenu une thèse dans les années 80 en plein dans ces questions-là, puisque je travaillais sur l'indexation automatique des documents, qui est un domaine du traitement automatique des langues, dont l'objectif était, en ce qui me concernait, d'essayer de décrire d'une manière synthétique de quoi parler un texte. Ce qui, entre parenthèses, quand on est auteur en même temps, est tout à fait intéressant comme question. Mais de le décrire dans un sens un peu documentaire, au sens où on met des mots-clés pour décrire des documents, c'est-à-dire d'essayer de trouver non pas ce que le texte dit, mais juste de quoi il parle. Et ça marche mieux sur des textes scientifiques que sur des textes littéraires. Donc, dans ces années-là, j'avais des collègues à Grenoble, pas loin, qui travaillaient sur la traduction automatique. Et ça posait tout à fait le même genre de questions. Et on ne parlait pas trop d'intelligence artificielle dans ces domaines-là, parce qu'intelligence artificielle, ça faisait pas sérieux. Du point de vue progression des travaux sur le sujet, il y a des vagues, il y a des périodes, et il y a aussi beaucoup de marketing de la science, qui est important, parce que bon, c'est beaucoup plus délicat encore maintenant que ça ne l'était à l'époque. Mais de plus en plus, la science doit trouver des financements, répondre à des appels d'offres, convaincre des décideurs qu'elle travaille avec des enjeux importants, et que le vocabulaire qu'on utilise pour parler de la science est extrêmement important pour pour convaincre des décideurs politiques du fait qu'il est important de mettre des budgets sur tel ou tel type de travail. Des budgets et des forces, j'allais dire des hommes, mais j'ai écouté Anne tout à l'heure, donc je vais juste dire des humains, des forces humaines. Donc, on a, à l'époque, travaillé de manière assez dissociée sur tout un tas de thématiques, toutes celles qui correspondaient à l'idée générale de permettre à un ordinateur de comprendre quelque chose qui serait dit dans un langage humain, le comprendre pour le dire dans une autre langue, pour le traduire, pour un jour envisager des dialogues, y compris éventuellement des dialogues verbaux ou oraux, et puis des tas d'autres choses qui avançaient beaucoup plus rapidement, je dois dire. Il y a eu tous les travaux sur les systèmes experts, les systèmes à base de connaissances, qui jouaient un rôle d'expert dans un domaine et qui fonctionnaient bien parce qu'ils travaillaient sur des domaines où la connaissance était restreinte, délimitée, et où l'ensemble des connaissances utiles pouvaient finalement être listées de manière assez complète. Donc, on a beaucoup parlé à l'époque de l'aide au diagnostic dans le domaine médical, c'est-à-dire des systèmes qui dialoguaient avec des patients en général et qui, selon les réponses obtenues, élaboraient le dialogue en fonction des éléments d'information qui avaient déjà été récoltés et qui proposaient des pistes pour des diagnostics qui, bien sûr, étaient remis entre les mains d'un médecin et simplement faisaient gagner du temps ou permettaient d'éviter d'oublier des aspects importants dans ce processus de poser un diagnostic. Dans le même temps et avec le même genre d'outils, on avait des systèmes experts qui faisaient du conseil au placement financier, du conseil au choix de police d'assurance. Tout ça, c'était des domaines où la connaissance était relativement facile à cerner et à formaliser. Il y a des gens qui commençaient aussi à travailler sur... C'est plutôt le domaine de la reconnaissance des formes, parce que quand j'ai mis dans le texte « Vision par ordinateur », essayer à partir d'une image qui a été captée, d'essayer d'identifier en gros ce qu'on voyait dessus. C'est un domaine qui occupe toujours beaucoup de chercheurs, mais qui a très notablement progressé. Et je dois dire, à l'époque où moi je travaillais sur ces questions, on était plein d'espoir. Il y avait énormément de gens qui pensaient que, en gros, d'ici 10 ans, on aurait réglé le problème de la traduction, par exemple. C'est vrai que les premiers progrès ont été rapides. Dans mon domaine, puisqu'il y en a au moins un que je connais bien, je peux vous raconter un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on a commencé à inventer la manière de modéliser des connaissances linguistiques, et en particulier celles qui permettent de reconnaître la structure, la composition d'une phrase ou d'un énoncé plus globalement, on s'est aperçu qu'avec un petit nombre de règles, une fois qu'on en avait inventé le formalisme et les principes, on pouvait résoudre en gros 40% des phrases ou des problèmes, enfin les analyser à peu près correctement. Et puis pour passer de 40 à 50% de taux de réussite, eh bien il fallait tripler la quantité de règles que l'on devait utiliser. Et puis pour passer de 50% de réussite à 60% de réussite, il fallait multiplier par 10 le nombre de règles que l'on mettait en œuvre. Et que passé un certain seuil, tout ce qui auparavant avait été bien résolu était finalement perturbé et pollué par toutes les règles que l'on avait dû ajouter pour traiter un petit peu plus de cas. Donc les performances chutaient finalement. Et c'est fascinant sur cette question de l'analyse des énoncés humains. Il y a une chose dont on n'est pas du tout conscient, c'est le fait que à peu près 40% des mots qu'on emploie sont ambigus. Et sont ambigus à un niveau très élémentaire, c'est-à-dire que ils peuvent être soit des adjectifs, soit des pronoms, soit des verbes, soit des noms. Mais on ne le perçoit pas du tout dans une analyse humaine parce que on a des processus prédictifs sur l'analyse de la syntaxe des phrases qui font que on a entendu le début d'une phrase, on sait comment elle s'ébauche sa construction et sur quel principe elle part. Mais vous donnez à un ordinateur, il y en a parmi vous qui connaissent un peu ce genre de sujet, ce traitement automatique des langues, Bon, alors ça, je peux vous raconter des trucs rigolos. Prenez une phrase. Si je vous dis, le pilote ferme la porte. En plus, il y a de l'intonation. Je vous dis, le pilote ferme la porte. La phrase est simple. Et je pense que tout le monde l'a construit avec une analyse qui consiste à dire que le pilote, c'est un sujet, ferme, c'est le verbe fermer, et la porte, il y en a une à côté. Et en fait, vous donnez ça à un ordinateur très bien conçu, qui a effectivement l'ensemble des règles qui permettent d'analyser cet énoncé-là, toutes les connaissances linguistiques qui permettent de le faire. Et il va trouver une autre analyse qui est tout aussi juste, mais que nous, êtres humains, nous n'allons jamais détecter. C'est, alors, il faut que je vous raconte une histoire et vous allez la comprendre. Il faut un contexte, en fait. Donc, nous avons un vaisseau spatial dans lequel se trouve un pilote, un vigoureux et beau pilote, bien viril, et une charmante jeune fille qui, comme toutes les charmantes jeunes filles, a tendance à s'évanouir quand il y a un problème. Je fais de la provoque, mais après, Anne Larue nous a parlé de, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, de genre et de féminisme tout à l'heure, donc ça, c'est amusant d'en reprendre des miettes. Et donc le vaisseau spatial se scratch à l'atterrissage, la jeune fille s'évanouit, et à ce moment-là, le pilote arrive quand même à ouvrir la porte du vaisseau, et il sort. Et c'est un homme, je vous ai dit, énergique, viril et ferme. Et le pilote ferme la porte dans ses bras. Donc, voilà, pilote peut être un nom, un verbe. Ferme peut être un verbe, un nom, un adjectif. Et en plus, à chaque fois, ça veut dire quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Là peut être un pronom ou un article. Porte peut être un nom, un verbe. Et il y en a plein des comme ça. Je vous dis, 40% des mots qu'on emploie à ce simple niveau de différenciation que ferait un dictionnaire peuvent être interprétés de manière différente. Tout ça pour dire... Oui ?
La machine ne peut pas tenir compte du contexte ?
Le contexte, alors là, le contexte, il est sémantique. C'est-à-dire que je vous ai raconté une histoire qui dit... que j'ai eu du mal à inventer, d'ailleurs. La plupart des outils qui travaillent sur des énoncés, en particulier pour faire de la traduction, ils prennent une phrase après l'autre, et une phrase, en plus là c'est une phrase hyper simple. Les phrases en général sont des choses beaucoup plus complexes. Et on peut tout de suite voir, en fait ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est qu'il faut vraiment se méfier des analogies. Il est clair qu'un ordinateur peut... trouver le principe de construction d'un énoncé, ce qui est une base indispensable pour ne serait-ce que passer d'une langue à une autre, mais qu'il ne le fait pas du tout avec les mêmes mécanismes et surtout le même arrière-plan sémantique que nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas. Il arrive à des résultats, mais il travaillera de manière tout à fait différente. Et on essaie même pas d'introduire actuellement une connaissance sémantique au sens le contexte, c'est-à-dire les phrases qui se trouvent autour. Dans le meilleur des cas, on essaie peut-être un peu de repérer, et encore je ne connais aucun prototype actuel sur le marché qu'il fasse, mais dans les labos de recherche, on a eu des prototypes qui étaient capables de repérer de quoi on parlait dans un paragraphe de texte, au sens quel était le thème, juste pour reconstruire les anaphores. Alors, anaphore, c'est un gros mot, c'est juste... tous les marqueurs qui servent à faire référence à un truc qui a déjà été dit avant. Par exemple, quand on dit « il », eh bien le « il » renvoie à quelque chose qui a été cité auparavant et qu'on ne réexprime plus avec un terme qui dit quelque chose. C'est juste un lien vers une occurrence, un énoncé précédent. Donc, voilà, le contexte, on n'en est pas encore à essayer de l'interpréter. Quand on met un peu de sémantique dans le traitement automatique des langues, ça tourne très vite, très mal. Je n'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, si je vous embête, mais quand on me branche sur mon boulot, forcément, j'ai des choses à dire. Enfin, je me suis branchée toute seule. Mais si on essaie de mettre un petit peu de sémantique, on le fera au sens d'essayer de comprendre un contexte local. Et on se mettra à introduire des différenciations du style... Il y a tel genre de choses qui sont plutôt des êtres animés ou des êtres inanimés ou des êtres vivants. Il y a certains types d'actions qui ne peuvent être faites que par des êtres vivants et d'autres qui ne pourront pas l'être par des objets. Et puis il y a des objets qui sont liquides et d'autres qui sont solides. Et tiens, bah, ce dernier exemple vous permettra de voir tout de suite que si on dit que des objets, si on enregistre des propriétés sémantiques les concernant, disant qu'il y a des objets solides et des objets liquides, et que a priori l'action de boire concerne des objets liquides, eh bien on ne peut plus boire un verre, parce que ce genre de figure de style, en fait, qui porte un joli nom que j'ai oublié, est extrêmement fréquente. On a perçu tous ces blocages assez tôt, on continue à progresser, mais la langue humaine est porteuse d'énormément d'ambiguïté et de complexité, et c'est ce qui nous rend créatifs. C'est la multiplicité des ambiguïtés, des interprétations, des contextes. Nous avons tous des contextes d'interprétation différents selon notre vécu. Tous les mots que nous employons nous renvoient à des expériences de lecture, de discussion. Nous avons des tas de choses en commun, sinon on ne se comprendrait pas. Mais on a aussi des contextes qui sont légèrement différents, qui nous obligent à réinterpréter à chaque fois. Et c'est ce processus de réinterprétation qui fait, par ces ambiguïtés fondamentales, que nous sommes créatifs. On ne peut pas être créatif avec un langage de programmation. Un langage de programmation a été conçu de manière à ne porter aucune ambiguïté, justement. Comme un langage de spécialité au sens professionnel qu'on a désambiguisé. Et une des conséquences de la désambiguisation, on a la clarté, on a un énoncé pour lequel la marge d'interprétation est devenue beaucoup plus étroite. Par contre, s'il n'y a plus multitude d'interprétations possibles, on a stérilisé l'énoncé. Il ne porte plus de potentialité qui s'exerce après au moment où on le traite. Je ne sais pas si je suis très claire. Je pense qu'on va... On va y revenir, restons sur l'intelligence artificielle quand même un petit peu. Voilà. Alors, il y a un truc qui est très drôle avec le terme d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que pendant toute cette période, on a eu cette espèce de fantasme que certains auteurs, aussi bien des scientifiques que des auteurs de science-fiction, ont beaucoup porté en disant « un jour on y arrivera, bientôt sans doute on y arrivera ». La puissance de calcul des ordinateurs augmente, la capacité que nous avons à formaliser des phénomènes complexes s'améliore aussi. Parmi les multiples défis qu'on s'est lancés à l'époque, c'était celui... Il y a eu un jour quelqu'un qui a dit, je ne sais plus qui, le jour où un ordinateur sera capable de battre un humain aux échecs, alors là, on aura vraiment une intelligence artificielle. Et ça a été un défi très difficile qui a été évidemment il est probable que vous avez dans votre téléphone ou dans votre tablette ou sur votre ordinateur, si vous aimez jouer aux échecs, vous avez sûrement installé un logiciel qui joue et qui joue bien, c'est-à-dire que si vous le mettez au niveau, même bien avant de le mettre au niveau d'efficacité le plus élevé, vous avez quand même assez peu de chances de réussir à le battre. Et il y a eu effectivement des programmes qui ont battu les meilleurs humains aux échecs. Et puis là, il y a des chercheurs qui ont repris de manière critique le processus par lequel on est arrivé à des ordinateurs qui jouaient mieux que des humains, et ont dit « mais non, c'est pas ça l'intelligence artificielle, c'est la force brute de la puissance de calcul qui a été mise en œuvre. » C'est-à-dire qu'on a des outils actuellement qui ont mémorisé des milliers de parties, qui ont mémorisé à peu près toutes les différents types de positions et de situations qu'on trouvait au cours de ces parties, avec la manière dont l'issue de la partie a été dans le sens d'une victoire des blancs ou des noirs. Enfin, et c'est en gros une démarche selon laquelle on a exploré tous les coups possibles, non seulement à la prochaine étape, mais au cours des 3 ou 4 prochaines étapes, qu'on est arrivé à des ordinateurs qui jouaient très très bien. Alors que les êtres humains, il y a un chercheur qui a produit un discours critique sur cette analyse du joueur d'échecs comme n'étant pas un vrai défi de l'intelligence artificielle, et on sait un petit peu comment travaille le cerveau humain dans ce genre de situation. Si vous êtes un joueur d'échecs novice, vous allez en gros examiner, une 15 à 20 possibilités différentes, et puis vous allez les comparer et jouer celle qui vous semble la meilleure. Mais des possibilités différentes de coups, il y en a bien plus que ça, il y en a des centaines. Le joueur novice en sélectionne quelques-unes qui lui semblent naturelles ou évidentes, mais qui ne sont pas forcément les bonnes. Toute la différence entre un joueur novice et un bon joueur, ou entre un bon joueur et un très bon joueur, et il y a plein de niveaux très différenciables aux échecs, un très très bon joueur ne va pas en sélectionner davantage. Il va en sélectionner 15 ou 20 aussi. Mais intuitivement, il va tout de suite repérer celles qui sont les plus intéressantes. Et on ne sait pas comment se met en œuvre ce processus intuitif qui fait la première sélection. Et c'est là qui est tout l'enjeu. Et c'est pour ça qu'on n'a pas bâti des intelligences artificielles qui jouent aux échecs de la même manière que des humains, même si elles le battent. C'est qu'on ne sait absolument pas, à l'heure actuelle, ou disons pas très bien, comment modéliser ce processus initial qui fait la présélection avant d'examiner comment les coups pourraient tourner. À cette période, je dirais, on est en gros dans les années 80 aux États-Unis, peut-être plus 90. On a pris du recul, on s'est mis à inventer chez les informaticiens des tas de termes on s'est mis à inventer des trucs qui se terminaient en AO, assisté par ordinateur. Au lieu d'imaginer des systèmes qui prenaient des décisions ou qui faisaient un travail, on a remis au centre l'intellect humain et la prise de décision humaine, en disant l'ordinateur va devenir un assistant. Ça a été un renversement très clair dans la vision du partenariat homme-IA. C'est un peu ça notre fil conducteur, faut pas que je l'oublie. Alors, on a continué à mener des travaux qu'on aurait pu continuer à étiqueter IA dans des tas de secteurs très différents, dont pas mal qui fonctionnent bien à l'heure actuelle et qui ont tout naturellement intégré notre environnement. Avoir des correcteurs orthographiques dans nos traitements de texte, ils ne sont pas parfaits, ils sont quand même redoutablement efficaces. C'est-à-dire que s'il leur arrive de faire des erreurs, globalement, ils en font probablement moins que la plupart d'entre nous. Les fautes d'accord, ça va au-delà de la détection d'une forme qui n'existe pas parce que vous avez interverti deux lettres. Ça, c'est relativement simple de trouver quel est le mot par lequel il faut remplacer pour avoir un mot qui existe. Mais on a déjà des détections de fautes d'orthographe qui sont bien plus élaborées que ce qu'on était capable de faire à l'époque de ma thèse. Qu'est-ce qu'on a recommandations. Alors oui, j'évoque des choses très différentes ici. Du point de vue de la reconnaissance des formes, vous savez qu'actuellement, on a des outils qui sont capables d'identifier une personne particulière dans une foule à partir d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance et de suivre son itinéraire en le suivant de caméra en caméra. Parce que l'identification du visage de la personne, ou de sa silhouette, est devenue tout à fait fiable. Donc on peut analyser comme ça des milliers d'images de vidéosurveillance et repérer un individu particulier que l'on cherche à identifier. Recommandation ciblée, ça aurait paru complètement magique il y a 20 ans. Recommandation ciblée, c'est un autre volet de l'IA qui n'est pas toujours présent comme manière de travailler. C'est l'idée de faire de l'apprentissage. La recommandation ciblée, c'est le genre de processus que met en œuvre un outil comme Amazon quand vous achetez n'importe quoi, des livres, des disques. Amazon vous fait en fait deux types de recommandations qui correspondent aux deux grands courants de l'intelligence artificielle. concernant l'apprentissage, du moins du côté de leur mise en œuvre dans le secteur du marketing. Il y a d'une part l'apprentissage individuel. L'apprentissage individuel, c'est l'analyse de l'ensemble des interactions que vous avez eues avec le système qui permettent de dégager quelques informations sur vos centres d'intérêt, le genre de choses que vous achetez et qui permettent d'en déduire des choses. Mais il y a aussi des processus d'apprentissage collectif qui fonctionnent sur des principes assez différents et qui, en gros, vont permettre de vous dire les gens qui ont acheté tel truc auquel vous êtes en train de vous intéresser ont aussi acheté tel autre. Donc là, on est en fait dans du traitement purement statistique. On accumule des traces d'interactions, d'actions qui ont été menées soit par une personne isolée, soit par l'ensemble de toute une population, et on regarde statistiquement ce qui s'est produit. Ça se développe très bien parce qu'il y a des vrais enjeux commerciaux derrière et il n'y a pas que Amazon qui s'en sert. On ne parle pas trop d'intelligence artificielle quand on dit tout ça, mais donc essayons de revenir sur la définition officielle de ce que c'est. Alors celle-là, je l'ai pris dans la Wikipédia. Ça commence comme ça dans la Wikipédia, c'est pas plus mal qu'autre chose. La recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. Et en fait, quand on lit bien ça, on se rend compte que il y a plein de manières de le comprendre et de l'interpréter qui font qu'on ne parle pas toujours tous de la même chose en employant ce terme. Est-ce qu'il s'agit... On aurait dit il y a 20 ans à quelqu'un qui pouvait se promener avec un petit appareil portable qui non seulement lui permettait de parler avec n'importe qui, sur des longues distances. Moi, quand j'étais gamine, je lisais L'Angelot, agent secret. Ils avaient des petits appareils qui leur permettaient de communiquer entre eux. C'était magique, ça nous faisait rêver. C'était des téléphones portables. Et si en plus, on avait dit à l'époque que dans ce petit appareil, il y aurait un système capable de vous afficher le plan de l'environnement dans lequel vous êtes, c'est-à-dire les rues qu'il y a autour, et même de vous aider à trouver la boulangerie la plus proche, il y a 20 ans, on se serait dit, il n'y a qu'un être humain de bonne volonté qui connaît le quartier, qui serait capable de vous expliquer quelle est la rue qu'il faut prendre pour trouver le palais des congrès ou la boulangerie la plus proche. Maintenant, on a ça dans notre téléphone, et on ne dit même pas qu'on a des intelligences artificielles. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a réalisé le truc, on sait aussi avec quoi on l'a réalisé. On sait tous qu'on a un système de localisation par satellite qui nous permet de situer notre position, que mémoriser des cartes, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Si la boulangerie est identifiée, c'est parce qu'elle a fait une démarche de marketing visant à être identifiée comme telle dans une base de connaissances. On a démystifié tout ça. Du coup, on dit plus qu'on a des IA. Nous savons que nous avons ce genre de prestation qui peut être fournie par des outils de notre environnement, mais que ça marche pas. C'est pas des réponses qui... Alors, elles sont comparables à celles qu'aurait pu nous fournir un humain, mais elles n'ont pas été analysées par les mêmes processus. Elles n'ont pas été traitées avec les mêmes outils. Et puis, on sait bien qu'on n'a pas affaire à une intelligence, au sens où il y aurait quelqu'un qui aurait conscience de lui-même qui serait dans notre appareil. On refuse de le reconnaître comme une intelligence avec laquelle on pourrait dialoguer.
Oui. Une intelligence artificielle a des capacités intellectuelles, mais ce qui a aussi des capacités émotionnelles qui parlent...
Ah, ça, c'est une grande question. Et il va y avoir des tables rondes sur... intelligence artificielle et conscience de soi, intelligence artificielle et émotion. Moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il est extrêmement peu probable qu'on puisse avoir de l'intelligence émotionnelle dans une machine parce que je n'imagine pas qu'elle puisse exister en dehors de sentiments tels que la frustration, des pulsions qui sont très biologiques fondamentalement, des besoins, bon, c'est pas tout à fait notre thématique, mais C'est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on dit une intelligence artificielle, à l'heure actuelle, on n'a pas dit grand-chose et on ne sait pas trop de quoi on parle. Et que quelque chose qu'on appelait IA, il y a quelque temps, du point de vue de ses capacités, on a souvent tendance à ne plus considérer que c'est une IA a posteriori, parce qu'on sait que les capacités qui ont été mises en œuvre sont très différentes de celles que nous, nous mettons en œuvre pour remplir les mêmes fonctions. Oui, vous vouliez dire.
Donc là, vous avez répondu sur les émotions, mais pas sur la conscience de soi.
Oui, il va y avoir une table ronde là-dessus. Et oui, je vais c'est un vaste sujet.
Si c'est possible.
Moi, personnellement, j'y crois pas. En tant qu'auteur, je n'y crois pas. Mais on est obligé de parler de croyance par rapport à ça. Parce que la première question, c'est comment savoir que la conscience de soi existe chez l'autre. À la limite, vous avez le droit de dénier le fait que j'ai conscience de moi. Vous ne savez rien de tous les autres humains qui sont autour de vous, si ce n'est... disons que nous sommes dans l'incapacité de différencier la simulation de l'autre, de l'émotion de l'autre. Après, on fait confiance à notre intuition, à notre... Mais, bon, il y a Philippe Kadic qui parle très bien de ce genre de choses. C'est un sujet avec lequel les auteurs de science-fiction aiment bien jouer. L'idée de conscience, de vraie réalité, de la réalité, est-ce qu'il y a une réalité objective ? Enfin, il y a des concepts philosophiques, mais avec lesquels la science-fiction adore jouer. Donc, j'ai peur que ça nous emmène un petit peu loin. Mais je crois que... on sait tous qu'à l'heure actuelle, aucune IA n'est consciente d'elle-même. Ça, on est d'accord là-dessus. Est-ce que ça pourra émerger un jour ? Vaste question. Paradoxalement, les stratégies marketing font qu'on se remet à parler beaucoup d'intelligence artificielle ces derniers temps. D'abord, il ne faut pas forcément mélanger le concept de robot avec le concept d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la capacité de raisonner, de comprendre, de dialoguer éventuellement, alors que le robot, c'est une matérialité physique qui peut être associée ou non à une IA, mais qui peut interagir avec son environnement sans être très... bien équipé du côté intelligence artificielle, disons. Dans les usines, vous avez des robots qui font des assemblages complexes ou adaptatifs, c'est-à-dire c'est pas simplement des mouvements répétitifs, mais qui en même temps sont liés à des tâches très spécifiques et bien ciblées. Donc, si on en revient aux intelligences artificielles, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Là, j'ai perdu le fil. Les IA, oui, c'est pas la même chose que des robots. Je ne sais plus, quelqu'un peut m'aider.
Marketing.
Oui, alors, ma fille s'est achetée il n'y a pas longtemps un bel iPhone, comme plein de gens. Et dedans, elle a une IA qui s'appelle Siri. Vous avez peut-être Siri dans votre téléphone. Je pense que c'est une démarche purement marketing qui a fait la présenter comme étant une intelligence artificielle. De fait, c'est le type de logiciel que l'on est totalement capable de maîtriser, parce que ce qui est facile à gérer du point de vue informatique, ce sont des systèmes dans lesquels l'ensemble des fonctions que l'intelligence artificielle est censée réaliser est bien délimité. Or, une intelligence artificielle dans votre téléphone n'a d'intérêt que parce qu'elle est capable de mettre en œuvre toutes les fonctions qui existent déjà dans votre téléphone. En gros, vous avez une liste de contacts dans votre messagerie, vous avez un plan, vous avez Google, vous avez un moteur de recherche, Siri, c'est l'interface qui vous donne un point d'entrée unique vers toutes les fonctions qui existent déjà. Donc, à la base, tout ce qu'il est censé faire, tout ce que cette IA est censé faire, c'est identifier quel est le type de demande que vous avez, puis essayez de récupérer des éléments dans votre demande pour cibler vers des fonctions que le téléphone est capable de gérer. Ça veut dire qu'il n'y a pas une grande diversité d'actions possibles. C'est juste celle qu'il est capable de traiter. Et puis ça a été très bien habillé et ma fille passe son temps à dire des choses saugrenues à Siri, du genre... Est-ce que tu veux bien me faire une pizza? Est-ce que, comment tu vas? Vous avez sûrement aussi joué à ça, c'est très rigolo. Bon, on voit assez vite où sont les limites du système, c'est-à-dire que les concepteurs ont eu la malice et la finesse de... Quand on dit bonjour à Siri, il dit bonjour. Quand on lui demande comment ça va, il dit ça va bien et toi? Et c'est les quelques occasions dans lesquelles il n'est pas en train de mettre en œuvre une fonction utile, mais il a un comportement, des réactions assez stéréotypées, en nombre limité, mais qui font que la mystification, c'est une mystification en fait, passe assez bien, c'est ludique. Un système que l'on appelle intelligent au sens de la recherche, habituellement, il y a plusieurs exigences. Il y a en particulier cette exigence qui est de savoir réagir à des situations totalement nouvelles qui n'avaient pas été prédéfinies. Il est clair que les intelligences artificielles actuelles n'ont pas cette capacité. En tout cas, pas Siri dans votre téléphone. Il n'est pas capable d'apprentissage non plus. C'est pas parce que vous lui posez 700 fois là, vous dialoguez 700 ou 7000 fois avec lui, qu'il se mettra à vous donner des réponses plus intelligentes. Donc, en principe, ce serait un prérequis. Oh, mais il est déjà 7h15, je vous ai dit à peine le quart de ce que je voulais dire. Alors, passons quand même un peu en revue. Donc ça, on en a parlé. La diversité de ce que font les machines et les services qu'elles sont capables de rendre de plus en plus, ça va être traité dans d'autres tables rondes. Le robot comme rendant des services aux personnes âgées. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de réticences et je vais me faire un grand plaisir d'aller les exprimer à tous les collègues, mais je crois qu'on est nombreux à avoir des inquiétudes en termes de, tout simplement, de chômage, par exemple, en termes de relations humaines dont les personnes âgées aussi ont besoin, donc leur mettre un robot. Enfin bon, on va pas trop parler de ça parce que, voilà, je voulais quand même qu'on parle un peu de partenariat. Ce qui doit nous alerter, je crois, actuellement, c'est qu'on a, de manière assez peu discutée collectivement, délégué, et on va probablement dans l'avenir déléguer de plus en plus de responsabilités à des processus qui, de fait, sont sous le contrôle de sociétés qui ont une vocation économique et commerciale, c'est-à-dire qui œuvrent pour leurs bénéfices. On peut dire ça dans plein d'autres domaines, on peut dire ça à propos des sociétés pharmaceutiques, on peut dire ça à propos des gens qui travaillent sur les OGM ou tout ce que vous voulez. C'est pareil quand on parle de Google, par exemple. Google est aussi une société qui a des buts lucratifs. Et pour prendre un truc que je connais assez bien, les moteurs de recherche. Quand on sait que plus de 95% des gens qui adressent une requête à Google ne dépassent pas la première page de réponse, ne vont jamais consulter les suivantes. Quand on sait par ailleurs que Google a des processus qui permettent de hiérarchiser les réponses, vous avez beaucoup de questions pour lesquelles, vu la diversité de ce qui se trouve sur Internet, vous avez des centaines ou même éventuellement des milliers de réponses. Quand on sait que Google n'a aucune obligation et a breveté les systèmes qui décident de l'ordre dans lequel on va vous présenter les réponses et donc ce que probablement, potentiellement, elles sont toutes accessibles, mais quand on sait que de fait on ne regarde que les premières, c'est comme si on vous occultait les suivantes. Et personne ne sait comment est construit l'algorithme qui trie ces réponses. On sait vaguement qu'il y a des choses qui sont prises en ligne de compte. On sait vaguement que probablement ressortent en premier les sites sur lesquels il y a le plus de liens, les sites les plus consultés, comment ça s'agence. On sait aussi que le fait de se faire référencer dans un moteur, ce qui est un processus payant, vous permet de remonter dans le classement des réponses. Mais comment ça... comment ça marche exactement, ben, finalement, personne ne s'en soucie trop. Or, il me semble qu'il y a un enjeu de société extrêmement important. Il y a progressivement des choses qui, dans un environnement où on a l'impression d'avoir de plus en plus de liberté et de potentialité, il y a aussi parallèlement des choses qui disparaissent par des processus que nous avons délégués et dont nous n'avons pas clairement assumé la responsabilité. D'abord, est-il normal que on a actuellement, d'une part, des processus qui mettent en valeur à peu près toujours les mêmes choses, et d'autres processus qui sont tout aussi alarmants, et là encore, nous ne savons pas trop dans quel cas certains se mettent en place et dans quel cas c'est les autres. Nous avons aussi des processus qui collent à nous et à notre profil et à l'historique de tout ce que nous avons fait. Vous avez dû remarquer que quand sur Google vous cherchez le nom de quelqu'un, par exemple, si vous vous intéressez à un domaine, vous tapez les premières lettres de son nom. Ben Google, il est drôlement sympa, il vous parle en priorité des gens que vous connaissiez ou que vous cherchiez. Ça tombe bien, mais seulement ça vous donne une appréciation totalement fausse de la visibilité de ces personnes ou de ces objets ou de ces thématiques. Parce que quelqu'un d'autre à côté, qui est sur une autre machine, qui tapera les mêmes lettres, il n'aura pas forcément les mêmes propositions. Donc, tout ça, ça se passe... sans qu'on se demande trop comment ces mécanismes se mettent en œuvre. Et ces mécanismes, il y a un très très gros enjeu derrière, c'est tout simplement notre perception du monde. Nous avons délégué à des outils qui l'ont fait très bien et qui ont amélioré notre connaissance. La compétence à nous donner des points de repère sur ce qui nous entoure et ce qui est important autour de nous. Je crains qu'un jour on se promène avec des lunettes Google Glass et que, enfin, d'abord qu'une petite partie de la population se promène avec des lunettes Google Glass et qu'une bonne partie de la population soit totalement exclue de ces nouveaux univers que nous fabriquons qui ne sont pas totalement démocratiques et loin de là. Ça devient assez compliqué de maîtriser cette technologie qui nous environne. Et puis financièrement, il faut être capable aussi d'y faire face. Mais je crains qu'un jour, il y ait des choses qui deviennent pratiquement invisibles autour de nous. Je vous parlais tout à l'heure des lunettes, enfin, de votre téléphone qui est capable de vous dire où se trouve la boulangerie ou je ne sais quel point commercial le plus proche. Peut-être un jour, ne verrons plus dans ces outils qui nous aideront à naviguer dans notre environnement que ceux qui auront su se positionner dans cet environnement numérique et qui auront eu les moyens de le faire. Et je trouve que ces questions, peut-être qu'elles ne sont pas vraiment gênantes à l'heure actuelle, mais elles se posent de manière latente. Et c'est fondamentalement la question du partenariat avec les questions, les outils très complexes que nous sommes en train d'élaborer. On est en train de leur déléguer des tas de pouvoirs sans trop se soucier de la manière dont ils vont être pris en charge et de ceux à qui ils vont bénéficier ces pouvoirs. Le pouvoir, il bénéficie en général à la société qui produit l'outil et éventuellement aux clients, mais selon des règles qui ne sont pas totalement explicitées. Et il n'y a pas d'instance ou d'organisme qui exige le critère minimal de transparence qui est un préalable à toute discussion collective. Donc, je pense qu'il est temps qu'on se réagisse. Oui, oui, oui.
Pour réagir par rapport à l'exclusion due à la technologie dont vous parliez, est-ce que c'est pas dû en fait à la technologie? Et comme l'automobile au début était quelque chose pour les bourgeois,
oui.
Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans cette même...
Il y a encore plein de gens qui n'ont pas d'automobile, hein, oui, y compris en France, et qui n'auraient pas les moyens de s'en payer une.
Je suis d'accord avec vous, mais ça s'est démocratisé. Au début, on était sur du 5%
et oui. De personnes. Mais la fracture sociale, elle n'est pas tellement en train de s'estomper, hein. Si on mixe un petit peu tout ça, si on a des fonctions de service et d'assistance qui sont prises en charge progressivement de plus en plus par des IA ou par des robots évolués. J'entendais il y a 3 jours avant de venir des prévisions selon lesquelles les activités de service... Je vous en passe 2-3. Tant qu'on ne me met pas dehors, moi je reste. De quoi je voulais vous parler J'avais pris quelques exemples. Bon, je vous dis juste de quoi il parle. Dans le secteur de la bourse, il y a des IA qui prennent qui pilotent de manière extrêmement rapide en temps réel la vente et le rachat d'actions boursières. Ça crée des phénomènes globalement incontrôlables, dont même les responsables, là vous voyez, il s'agit de Elon Musk qui a fondé PayPal et qui est un des grands leaders dans ce domaine des marchés financiers et qui commence à s'inquiéter vraiment du fait que le contrôle nous échappe. On est dans un domaine très particulier. Ça, vous n'allez pas du tout avoir le temps de lire de quoi ça parle. Ça parle de Google et de tous les grands projets qui sont très clairement annoncés par Google liés au transhumanisme, en gros. C'est-à-dire, avec une espèce de fil conducteur qui est nous allons faire évoluer l'humain l'équipant. En lui greffant une technologie de plus en plus élaborée. Mais je voulais revenir, on était sur la fracture sociale tout à l'heure. Voilà, je voulais revenir sur celui-là qui me paraît extrêmement intéressant. Je vous ai pris vraiment de l'actualité fraîche, hein, 19 octobre. Amelia est une intelligence artificielle qui, à l'heure actuelle, est capable de remplir une fonction d'assistance informatique auprès de clients qui envoie des appels téléphoniques. Il est probable que dans un avenir assez proche, on en a déjà un peu on n'en est franchement pas loin, quand vous aurez un problème avec EDF, avec qu'est-ce qu'on appelle régulièrement. Vous savez, déjà, on tombe on a déjà des situations de dialogue où il faut franchir à peu près 12 étapes avant de, quelquefois, et après 25 minutes d'attente, réussir à avoir un être humain au bout du fil. Il est probable que c'est dans l'intérêt de ces sociétés de faire en sorte que, en gros, vous tombiez quasiment plus jamais sur un être humain. Que vous ayez en face de vous quelqu'un qui comprend votre demande et qui essaie d'y réagir. Et bien, c'est déjà en train de se faire. Amelia, elle fait de l'assistance informatique. Et en plus, elle est capable d'apprentissage. Donc, dans les premiers temps, voilà. Au début, elle n'était pas trop bonne. Elle ne comprenait pas grand-chose. Il y avait derrière aussi un accompagnement humain qui faisait qu'on enrichissait ses connaissances à chaque fois qu'elle avait eu affaire à un type de demande en lui faisant apprendre en gros quel type de réaction, quel type de renseignement elle était censée fournir dans cette circonstance-là. Donc au bout d'un mois, elle résolvait 42% des demandes. Au bout de deux mois, elle répondait correctement à 64% de questions. Il est probable que ce type de dialogue, de service en ligne va se multiplier. Et de manière générale, il y a tout un tas de situations qui sont actuellement des interactions humaines où on ne va plus avoir besoin d'un humain en face. Et ce que je lisais récemment, c'est qu'on prévoit, je ne sais plus, j'avais un petit papier pour le dire, je l'ai peut-être perdu, je vais vous dire de mémoire, on prévoit que 3 millions d'emplois vont être... d'ici 10 ans pourrait être occupé par des intelligences artificielles, ce qui élèverait le taux de chômage à 20%. Quand on voit la situation actuelle des chômeurs et la difficulté que notre société a à les prendre en charge et à les traiter correctement sans les humilier et les culpabiliser en plus d'être des chômeurs, alors que de fait, il n'y a déjà pas assez de travail pour tout le monde, la fracture sociale, je ne sais pas si elle est en train de se réduire. Mais on peut s'interroger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on regarde plus largement au-delà de la France, la situation n'est pas globalement pour l'ensemble de l'humanité non plus en train de s'améliorer. Donc voilà, il y a des vrais enjeux de société. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des IA, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait des lieux où... on pose des questions à la fois sociales et globales et aussi des questions plus fines sur le type d'expertise et de conseils et de recommandations et éventuellement de décisions que l'on délègue aux machines, que l'on délègue à des processus dont plus personne n'a le contrôle. Il y aura de moins en moins de gens qui seront capables de comprendre la manière dont les décisions sont prises, parce que ce qui, il y a 20 ans, était en gros de l'expertise assez facile à faire exprimer par un humain, devient progressivement une expertise rassemblée à partir des écrits, des compétences et des connaissances de centaines d'individus. Et le nombre d'experts qui vont être capables de réexprimer dans un langage humain, et je vous le rappelle, avec des raisonnements humains qui ne sont pas de même nature que celle des IA, la manière dont la décision a été prise et les critères qui ont été utilisés pour faire telle ou telle proposition, on n'y arrivera plus au bout d'un moment. Donc, plus personne ne saura dire comment raisonnent ces IA. Et on ne pourra pas, elles ne raisonnent pas comme nous. Donc, essayer de refaire une traduction, une retranscription, va être de plus en plus complexe. Donc voilà, moi, si je n'ai qu'une chose à dire, c'est nous sommes déjà concernés par ces questions. À chaque fois qu'on utilise Google, on est concerné par ces questions. Il est temps que nous ressentions l'importance de ce que nous sommes en train de déléguer et que nous reprenions le contrôle là-dessus en exigeant au moins la transparence à chaque fois qu'il est possible de l'avoir.
Vous avez un peu votre comité d'éthique et de contrôle. Vous y mettez la limite d'emblée quand vous dites on va déléguer des compétences à des structures qui ont des buts lucratifs. Ce serait possible si... Qu'est-ce qui est du domaine privé, qu'est-ce qui est du domaine public? En fait, ce serait possible si tout était lié au domaine public. Or,
oui.
On sait que ce n'est pas le cas.
Ah ben, on est obligé de parler de politique quand on parle de ce genre de questions. On est entre...
Chose idéologique.
Forcément.
Voilà.
Peut-être l'effondrement, si un jour il doit se produire, du système purement capitaliste que nous connaissons actuellement, il viendra peut-être de là, ou d'ailleurs. C'est un des endroits où il y a de la tension, il me semble. Où il y a des choses critiques qui pourraient se passer. Je ne vois pas juste, mais... Voilà, qui est bénéficiaire du travail de l'IA, quelles exigences. Ah, tiens. Oui, c'était mon dernier transparent. Comment je reviens, déjà? Attendez, je vais juste essayer de le remettre pendant qu'on termine. De toute façon, il est l'heure. Je vais retrouver ma dernière diapo. Voilà. Bon. Oui, on peut prendre 2-3 minutes quand même pour dialoguer. Bon, il y a plein de tables rondes hein, sur les IA. Moi, je trouve un petit peu... Enfin, nous, auteurs de SF, on se retrouve en position d'apporter la contradiction. Moi, personnellement, j'adore la science. Elle me passionne, elle me fascine, elle me fait vibrer. Je la trouve belle. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre que la science-fiction qui s'intéresse aux enjeux sociaux de tout ce que nous sommes en train de mettre en place. Et personnellement, autant j'ai un émerveillement total face à la science, autant j'ai beaucoup de prudence et un petit peu de méfiance aussi devant la manière dont nous prenons collectivement notre destin en main. On a un cerveau qui est câblé pour raisonner individuel à court terme. On ne sait pas bien raisonner collectif à long terme. Et ça, il va vraiment falloir qu'on trouve comment faire pour penser comme ça. C'est tout l'enjeu de notre avenir.
Il faut créer un RAO, raisonnement assisté par un
Oui, une supra-intelligence collective qui s'intéresse à l'intérêt commun, mais pas au détriment du libre arbitre individuel. C'est sacrément complexe comme problème.
Et assez pessimiste quand même.
Ben non, non.
Bien ce que vous dites.
Non, non, pas pessimiste. C'est des très beaux défis. C'est pas la technologie qui nous lance un défi. C'est nous, êtres humains, qui sommes... C'est notre manière de penser qui est mise en défi. Donc c'est génial comme challenge. Et puis, les humains ont des capacités extraordinaires, donc on peut croire aussi en l'humain.
La RAO, elle repose le même problème de
transition. Oui,
c'était ironique.
Hein. Il ne vient pas forcément de la façon dont on utilise la machine, mais il est intrinsèque à l'intelligence artificielle. C'est à partir du moment où on utilise de l'intelligence artificielle, finalement, c'est pour dépasser notre capacité de raisonnement. Ça, je pense que ça pose la question éthique du fait de la nature de l'intelligence artificielle. Ça ne vient pas son utilisation, ça vient vraiment du processus de l'intelligence artificielle. Qui fait dire, bah, si on fait raisonner quelque chose, je vais prendre un exemple, vous prenez quelqu'un qui fait une thèse sur un sujet particulier, vous renseignez sur lui Google en fait. En fait, Google va vous dire qu'il est proche de tel sujet, alors que simplement il s'est renseigné pour ça, sur sa thèse. Et le fait qu'on ait quelque chose qui fasse son processus pour nous, ça peut nous donner des choses, ça peut forcément nous donner des résultats à prendre, puisqu'on lui fait faire le raisonnement pour nous. C'est vraiment la question, elle vient vraiment de l'intelligence, de son existence en elle-même.
La remarque est bonne, est-ce que c'est pas aussi tout simplement, on a plein d'infos, on arrive à avoir de l'info immédiatement, très rapidement, est-ce que c'est pas juste se dire aussi qu'aujourd'hui la valeur humaine, c'est quelle pertinence et quelle confiance je donne à cette info, je prends un peu de recul,
tout simplement. En fait, on a un niveau d'info qui ne permet pas.
Le problème aussi, c'est que en tant que le cerveau humain, il a une capacité d'oubli qui est nécessaire d'ailleurs. Si on perdait cette capacité d'oubli, on deviendrait très vite fou. On est en train de bâtir des environnements dans lesquels il n'y a pas de capacité d'oubli automatique. Il faut actuellement faire de gros efforts pour effacer des traces de ses propres activités. Et même si on n'est pas dans une société Big Brother, enfin on ne sait pas jusqu'où on y est, mais ça aussi ça pose question. Oui. Bon, je suis en train de déborder de mon temps. En tout cas, merci pour les discussions qu'on a eues. Alors, je crois que vous êtes censé signer ou cocher une croix ou je ne sais trop quoi, c'est fait. D'accord, très bien. Eh bien, bonne poursuite pour ces belles utopiales. Et si vous avez envie de lire mon recueil, je vous dis quand même, c'est du space opéra, donc c'est pas du tout sur les îles. Il y en a un qui est bien visible en bas, il s'appelle l'Opéra de Chaya.